Dixième soliloque. Quoi qu'il en soit, nos jours étant comptés au ciel de toute éternité, selon notre plus commune croyance, je ne vois pas bien le fondement des honneurs courant à ceux qui ont vu rouler plus longtemps sur leur tête les sphères d'en haut que le reste des autres hommes, non plus que tout ce qui leur arrive, cela dépendant d'un même principe sans qu'ils y aient pu rien contribuer. Car toutes nos destinées dont les anciens ont tant parlé dépendaient selon eux des corps supérieurs et du différent aspect des astres. Ce qu'observent encore aujourd'hui nos faiseurs d'horoscopes et tous ceux qui défèrent aveuglément à l'astrologie judiciaire. Or, tout est si frivole et si incertain dans cette prétendue science que le nombre des cieux n'y est pas constant. Assez de philosophes ayant présupposé que les astres y étaient comme les oiseaux en l'air et les poissons dans l'eau. Il n'y a eu que les Juifs qui aient bien assuré qu'il y avait 10 cieux, de sorte qu'en leur langue, le Christ, le ciel, n'a point de singulier et n'est jamais employé qu'au pluriel. Selon leur rabbin, les 10 courtines du tabernacle de leur temple signifiaient ces 10 cieux, et le passage du texte sacré qui dit « Opera digitorum tuorum sunt coeli » les cieux sont les œuvres de tes doigts, témoigne que nos deux mains n'est que 10 doigts. Le nombre des cieux n'est ni moindre ni plus grand que celui-là. Quant aux astres et aux étoiles, Platon les établit dans son Épinomis pour des dieux visibles, ou du moins pour leurs images que nous devons respecter. L'ordre, selon lui, que les planètes conservent entre elles, montre qu'elles sont animées. Et Ovide, conformément à cette opinion commune, n'a pas manqué de mettre ses animaux au ciel dans le premier livre de ses Métamorphoses. Le soleil étant le principal d'entre eux, Apollon était nommé Epiokotos, ou surveillant par les Grecs, comme il se peut voir dans Fomutus. D'Antiaque, à cause que les premiers pères de l'Église déféraient plus à l'école de Platon qu'à celle des autres philosophes, ils admettaient l'animation des cieux et des étoiles, et l'on compte, entre les erreurs d'Origène, celle d'avoir cru ces mêmes étoiles capables du vice et de la vertu. Y a-t-il un art plus ridicule que celui de la judiciaire, quoi que pu faire ces suppôts, qui ont toujours tâché de rendre leurs prédictions apparemment véritables par des interprétations qui font pitié à tous ceux qui en considèrent l'absurdité. J'en ai assez produit d'exemples dans quelques écrits imprimés. Je veux seulement me remettre ici en mémoire celui qui regarde le poète Eschyle. On lui avait prédit, par l'inspection du ciel, qu'il mourrait de la chute d'une maison. Et l'on voulut que la tortue qui porte toujours sa maison et qui lui écrasa sa tête chauve, eût été désigné par la prédiction. Comment l'astrologie aurait-elle quelque chose de constant, et où l'on se doive arrêter, puisque ses professeurs se contrarient les uns les autres et bâtissent sur des fondements différents? Le père Semedo observe que les Chinois, qui n'établissent que 28 constellations, ont néanmoins un bien plus grand nombre d'étoiles que nous n'en reconnaissons. Si est-ce que le père Adam, astrologue royal, y fonde ses jugements sur les mêmes aphorismes que suivent les Européens? Au fond, si le mouvement de la Terre est présupposé, comme le cardinal Nicolas de Cusa l'a établi, et 80 ans depuis lui Copernic, suivi d'une infinité d'autres, que pouvons-nous recueillir de toutes les maximes des anciens qui doivent satisfaire un esprit solide au sujet dont nous parlons? Aussi voyons-nous que les plus grands hommes se sont repentis d'avoir déféré à la vanité de cette profession. Cardan avoue que la connaissance qu'il avait de l'astrologie lui fut fort préjudiciable, parce qu'il croyait, suivant ses plus constantes maximes, ne devoir pas vivre plus de 40 ans, et nous savons que sa vie a été de 75 moins 3 jours. Mathieu Paris fait un compte ridicule à ce propos de l'empereur Frédéric II, qui, entesté de la vanité de cette science trompeuse, Il s'abstint la première nuit de ses noces de toucher à sa femme Isabelle, fille d'Angleterre, que le matin ne fût venu, et cela par le conseil de quelques astrologues. Donne competens ora i ab astrologis nunc caretur, jusqu'à ce que l'heure convenable lui fût d'annoncer par les astrologues. Et Scaligère, le père, écrit dans sa poétique que rien ne peut en fortifier l'opinion impie d'Épicure touchant la création fortuite du monde par le concours et assemblage hasardeux des atomes que l'inégale et téméraire disposition des astres sur nos têtes, où ils ne font aucune figure ni arrangement qui semble raisonnable. Car les figures qu'on leur fait représenter sont toutes imaginaires, et à peine y voit-on un triangle assez imparfait sous le nom du delta ou dell'automne, non plus que de lignes bien droites, si vous acceptez celle du baudrier d'Orion, qui multiplié sert à mesurer toute l'étendue du ciel. Le chancelier Bacon a déjà fait cette remarque, et que rien ne se meut là-haut par des cercles parfaits. Le mépris où j'ai toujours été des prédictions astrologiques m'a transporté plus que je ne pensais, ajoutant ceci à ce que j'en ai écrit ailleurs.